16h50, salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, les États-Unis qui considèrent la possibilité d'envoyer des soldats à la frontière canado-américaine?
Pensais-tu voir ça un jour de ton vivant?
Ben attends, c'est-tu parce que, je sais pas, Donald Trump a développé comme, je sais pas moi, une obsession sur les oiseaux qui traversent la frontière et qui n'ont pas de passeport?
Ben écoute, ça serait peut-être la meilleure justification qu'on pourrait trouver pour ça, parce que c'est assez dur à suivre comme proposition. Ce dont on parle présentement dans l'administration Trump, ça serait d'envoyer à peu près 1000 soldats américains à environ une trentaine de kilomètres de la frontière canadienne entre les postes frontaliers, entre ce qu'on appelle aux États-Unis les ports d'entrée.
Mais pourquoi?
Mais honnêtement, j'ai pas de réponse pour toi. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que même s'ils faisaient ça, il n'y aurait même pas le pouvoir, ces soldats-là, de détenir qui que ce soit. Leur seul pouvoir, en fait, ça serait d'alerter les officiers des postes frontaliers qu'il y a des Canadiens qui essaient de traverser illégalement la frontière entre les ports d'entrée. Évidemment, à l'ère non seulement de la COVID-19, mais à l'ère de la COVID-19 où, tu le sais comme moi, le Canada semble être mieux protégé que les États-Unis pour faire face à la crise. C'est un petit peu dur à suivre logiquement, là.
Beaucoup, OK, en fait. Ben écoute, comme t'es pas psychiatre, moi non plus, je pense qu'on n'aura pas la réponse.
Mais je te dirais quand même une chose sérieuse là-dessus. Ouais. C'est que, clairement, le gouvernement de Justin Trudeau la trouve pas très, très drôle parce que même si ça change pas concrètement grand-chose à la limite, là, même si les États-Unis faisaient ça d'un point de vue symbolique, tu sais, c'est un petit peu comme envoyer un doigt d'honneur à ton meilleur ami. Là. Ça se fait comme pas. Mais en même temps, où le gouvernement canadien doit être assez prudent dans sa réaction, c'est qu'on sait que la frontière est déjà fermée à peu près tout ce qui n'est pas commerce essentiel, en fait commerce et échange essentiel entre les deux pays. Et on sait que du côté canadien, pour des raisons évidentes, on ne veut pas que ça aille plus loin que ça. Donc, provoquer Donald Trump à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la chose à faire. Fait que, t'sais, c'est quand même épineux, aussi loufoque que ça peut avoir l'air a priori comme proposition. C'est assez épineux à gérer présentement à Ottawa comme dossier.
Ouais, à propos de cette idée-là là, de soldats américains, il y a notre ami Jérémy Filosa qui vient de faire un message Twitter. Je pense que beaucoup de gens vont passer comme lui. Il dit « C'est juste moi ou ça devrait être l'inverse à ce stade-ci
ouais,
de
mais
la
c'est
crise? »
mais c'est ça, mais c'est, en fait, c'est...
Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui vont vouloir traverser la frontière illégalement pour aller aux États-Unis présentement. Là.
Non. Ben non, c'est exactement ce que je disais il y a une minute. Le Canada, selon à peu près tous les meilleurs indicateurs présentement, fait meilleure figure que les États-Unis. Donc, c'est quoi l'idée? Ça serait quoi l'idée de sauter la frontière pour aller dans un pays qui semble être, à l'heure actuelle, moins bien placé pour faire face à la crise? Tu sais, je pense pas qu'il y a vraiment de bonne réponse à l'heure actuelle.
OK. Raphaël et Philippe, parlez-moi d'une publicité anti-Trump là, qui a pas mal fait jaser aux États-Unis.
Ouais. Je vais laisser Philippe en parler.
Ben, tout à fait. Et c'est une publicité qui, semble-t-il, quand Trump essaie qu'elle ne soit pas diffusée, elle est très dure à l'endroit de la gestion de la crise par Donald Trump. On l'écoute ensemble.
The coronavirus.
This is their new hoax.
We have it totally under control. It's one person coming in from China.
One day it's like a miracle. It will disappear.
When you have 15 people, and within a couple of days it's going to be down to close to zero, we really think we've done a great job in keeping it down to a minimum.
I like this stuff. I really get it. People are surprised that I understand it.
No, I don't take responsibility at all.
Priorities USA Action is responsible for the content of this ad.
Alors, on reprend toutes les déclarations au cours des dernières semaines dans lesquelles Donald Trump a minimisé la crise en disant bon, les cas vont disparaître, c'est un canular. Puis quand il a visité tout à coup une usine, pas une usine, mais une entreprise médicale, il dit moi, je comprends vraiment ça, toute cette question-là de la science. Bref, on les aligne. Et évidemment, ça a l'air complètement ridicule, toutes ces déclarations, compte tenu de l'état des choses aujourd'hui. Je veux juste vous raconter qu'à MSNBC, c'était tellement ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Alors là, il y a l'animatrice qui est là puis qui est accompagnée de son expert, c'est un avocat. Les deux, le visage très grave. Puis là, on dit, on va l'écouter ensemble pour savoir ce que vous en pensez, monsieur l'expert. Alors là, la pub joue. Puis là, lui, il regarde ça. Il dit, ça me semble assez conforme à ce qu'il a dit. Je regarde ça. Il dit, mais tout à coup, on va la réécouter. Et puis là, ben, on la réécoute. Puis là, il dit, la seule chose que je verrais, c'est peut-être que c'est pas le bon nombre de morts. Il y en a encore plus. Réécoutons-le. Alors, ils l'ont écouté trois fois, le visage grave, alors qu'évidemment, c'était manifestement arrangé un petit peu avec le gars des vues, mais c'était pas mal comique.
Ben, en fait, pour avoir vu rapidement la pub, visuellement à la télévision, le tic-tic-tic-tic qu'on entend, c'est la courbe de cas qui montent de façon exponentielle, qu'on voit en même temps qu'on entend les déclarations passées du président. Puis tu sais, Pat, je sais pas si tu te souviens, mais avant que la crise batte vraiment son plein, là, il y a peut-être une couple de semaines, peut-être 2-3 semaines, dans le temps où on peut encore se parler en personne en studio, tu sais, je t'avais dit, le risque, en fait, il était double pour Donald Trump politiquement face au coronavirus. Le premier, c'était évidemment un risque économique, que ça fasse planter l'économie et que Trump en paye le prix aux urnes. Et l'autre risque, en fait, c'est exactement ce qui est illustré dans cette pub-là, c'est-à-dire de s'être fait, entre guillemets, trop rassurant, ou en tout cas, d'avoir trop minimisé l'ampleur potentielle de la crise pour que, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les Américains se rendent compte qu'on est justement vraiment dans une crise qui a rien à voir avec ce qui était dépeint par le président au début. Et encore une fois, c'est ça qu'on voit. Et je pense qu'il y a très fort à parier pour que si les choses continuent sur cette voie-là, entre maintenant et le mois de novembre, c'est le genre de message et le genre de publicité électorale que le camp démocrate va lancer et relancer et re-relancer.
OK, Raphaël, tu trouves qu'il y a faut prendre les statistiques là qui sont diffusées au sujet de la COVID-19 aux États-Unis avec pas avec un grain de sel, mais avec précaution.
Avec beaucoup de précaution. C'est pas la première fois que je t'en parle, mais là je veux revenir là-dessus à cause de certains nouveaux développements. Premièrement, je t'ai déjà dit, il faut faire attention au nombre de cas qui sont déclarés aux États-Unis parce qu'on parle du nombre de cas qui sont détectés. Or, il y a une équipe d'experts qui a été interrogée par le site, je pense que tu connais bien, qui s'appelle 538, qui est mené par Nate Silver, un statisticien. Et les experts disent que selon eux, les statistiques officielles aux États-Unis sous-estimeraient le nombre de cas réels là, d'un ordre allant de 3 à 50. Concrètement, ce que ça veut dire, là, c'est que il pourrait y avoir 3 fois plus de cas de personnes infectées que ce qu'on rapporte, comme il pourrait y en avoir 50 fois plus. Maintenant, juste pour mettre ça en chiffres, si on dit 3 fois plus que le nombre rapporté, bien, le nombre rapporté présentement aux États-Unis à l'échelle nationale, c'est à peu près 80 000. Mais ça, 3 fois plus, ça veut dire à peu près 240 000 Américains qui seraient infectés du coronavirus. 50 fois plus, attache-toi bien, ça voudrait dire 4 millions d'Américains. Fait qu'il faut faire extrêmement attention aux chiffres qu'on entend lorsqu'il est question de dépistage. Puis, écoute, on pourra peut-être s'en parler davantage, mais ça, c'est des implications énormes à l'échelle internationale parce que dans d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, il y a certains experts qui sont en train de dire que là aussi, on a peut-être très gravement sous-estimé le nombre réel de personnes qui sont infectées ou qui ont été infectées et que ça, oui, ça peut peut-être avoir l'air affolant a priori, mais en fait, quand tu t'y arrêtes, ça peut être en fait une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça suggérait que le virus est peut-être moins mortel statistiquement que ce qui était peut-être cru a priori. Donc, on s'en reparle demain si on a du temps, mais il faut vraiment faire attention avec les statistiques qui viennent des États-Unis.
Merci, Raphaël. On s'en reparle demain.
À demain.
OK, au retour, on va retrouver nos collaborateurs, Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, les accros, Thérèse et Richard, et les suggestions d'Alexandre Taillefer pour acheter local, et aussi la députée Marois-Risky sur les taux d'intérêt des cartes de crédit.